France Inter.
Au sommaire aujourd'hui, de l'eau enfin dans les Pyrénées-Orientales depuis quelques heures, des pluies abondantes dans un département qui en manque terriblement, nous verrons cela. Nous serons également au sud de Lyon, les violentes intempéries d'hier paralysent une partie du trafic des trains vers Saint-Étienne. Et puis nous verrons pourquoi le président chinois Xi Jinping fera étape la semaine prochaine dans les Hautes-Pyrénées lors de sa visite d'État en France. À suivre encore, bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
L'acteur Gérard Depardieu, entendu par la police.
Oui, il a été placé en garde à vue ce matin, l'acteur accusé d'agression sexuelle sur des tournages en 2014 et 2021.
À tout de suite pour plus de précisions, notre rendez-vous olympique également ce lundi. Les Jeux avant les Jeux aujourd'hui. Comment les organisateurs des JO tentent d'échapper aux crises internationales? Ce sera avec Nathalie Yanetta. Et puis les nouveaux mots du Larousse. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Plusieurs de ces mots sont déjà dans le langage courant.
Mégabassine, cyberterrorisme et trottinettiste sont désormais laroussés, si vous me permettez ce néologisme.
On peut dire ça, je ne sais pas si c'est d'ailleurs dans ce Larousse, le nouveau, celui de 2025. À tout de suite. À 13h30, nous parlons du coût financier, des violences sexuelles, mais aussi des violences conjugales. Surtout pour les femmes qui en sont le plus victimes, les frais d'avocat, les frais médicaux, entre autres. Venez nous raconter si vous vivez ou si vous avez vécu ces situations. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton, nous embarquons dans les coulisses d'un voyage du président de la République.
Chaque avion d'un voyage présidentiel est gardé 24 heures sur 24. Il y a donc des policiers qui se relayent à bord de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer quand il est sur un tarmac en pays étranger.
Un voyage officiel comme si vous y étiez, ce sera avec Maxence Lambrecq. 13h50, c'est la France, l'histoire de Duralex à la chapelle Saint-Mémin dans le Loiret avec Thomas Negaroff. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'humoriste David Castello-Lopez demande Rosalie de Carlos à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est une goutte d'eau comparée à l'ampleur de la sécheresse que vit depuis 2 ans le département le plus sec de France, ce sont les Pyrénées-Orientales. Mais enfin, on peut tout de même se réjouir de cette pluie qui tombe donc sur le département depuis quelques heures et pas une vague averse, non, des pluies régulières attendues en ce début de semaine, comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Bonjour William Delesseux.
Bonjour Jérôme.
Vous avez pu joindre des habitants.
Oui, les premiers ravis, ce sont les agriculteurs. Depuis 2 ans, ils aperçoivent parfois les nuages, la pluie arrivée et aussitôt dissipée par le vent, la tramontane. Cette fois-ci, c'est la bonne, la pluie s'impose enfin. Guillaume Monchal, vigneron du domaine Clermayol entre Collioure et Port-Vendres.
On est très satisfait, on regarde les millimètres s'accumuler et on est content pour nos vignes, pour nos arbres, pour la verdure, pour les rivières, pour tout ce qui a besoin d'eau. Là, j'ai regardé, depuis qu'il a commencé à pleuvoir, on est déjà sur le secteur de Port-Vendres à une bonne quarantaine de millimètres et on en espère tout autant jusqu'à la fin de l'épisode. Si on peut avoir encore une petite pluie ou deux comme ça jusqu'au août-septembre, je pense que c'est bien. Vaut mieux ça qu'une tramontane à 100 km/h et du soleil. C'est très très bien, ça fait du bien à tout le monde et on est content.
L'épisode est assez homogène sur le département. De l'autre côté de Perpignan, au nord, dans les Corbières, à Casse-de-Peine, un peu plus de 30 mm d'eau mesurée dans les pluviomètres. Météo France prévoit que le cumul de pluie peut atteindre les 70 mm, voire 100 mm par endroit sur le relief. C'est plus que la moyenne d'un mois d'avril dans le département.
Alors, c'est positif, William, mais cela ne suffira pas à enrayer la sécheresse, on est d'accord?
Et donc, car on ne rattrape pas 2 ans de sécheresse en quelques jours. Le point positif qui donne de l'espoir à Henri Gotte, hydrogéologue, c'est que la pluie en ce moment ne tombe pas trop fort. Uh-huh. Elle a le temps d'être assimilée par la terre.
C'est une pluie fine, régulière, pas abondante, donc très intéressante. Elle s'infiltre. Une pluie comme il fait actuellement, ce ne sera pas suffisant. Voilà, c'est clair, pour régénérer toutes les nappes. Le temps de récupérer tout ça, ça ne se fait pas avec une pluie de 3 jours. Vous savez, la Terre est une machine à inertie.
Et il faudra quelques jours aussi pour avoir un premier aperçu de la recharge ou pas des réserves d'eau des nappes phréatiques. Le Bureau de recherche géologique et minière évoque toujours des niveaux historiquement dégradés avec une tendance toujours à la baisse.
Merci William Delesseux. Là, il a beaucoup trop plu hier dans le département du Rhône. 74 mm au mètre carré en 24 heures, l'équivalent d'un mois de pluie du jamais vu à Lyon pour un mois d'avril, ce qui a eu de fortes conséquences sur le trafic. Routier d'abord, l'autoroute A47 entre Lyon et Saint-Étienne coupée à la circulation pendant plusieurs heures. Et puis ferroviaire, le trafic des trains entre Lyon-Perrache et Firminy dans la Loire est toujours interrompu. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vous êtes sur place pour Inter, à Grigny-le-Sablon précisément, département du Rhône, où une coulée de boue a endommagé la ligne.
Oui, le train a heurté une coulée de boue elle-même causée par un glissement de talus et le trop-plein d'eau. Les nappes phréatiques sont remplies ici. Les deux rivières passant à Grigny à un niveau pas atteint depuis 5 ans, nous dit le maire Xavier Audot sur le pont depuis hier.
C'est-à-dire qu'en fait, ça ravine sur le rocher et donc ça enlève tout ce qui est arbre et en même temps tout ce qui est gravier qui est dessus. Et puis surtout, on a de l'autre côté de la ville le Garon et le Mornantais qui sont deux rivières qui se jettent dans le Rhône et qui, elles, sont beaucoup plus rapides. Le Mornantais est beaucoup monté, donc on a accompagné des habitants pour mettre en place des bâtards d'eau. Ça redescend aujourd'hui, mais on sait qu'il y aura de la pluie toute la semaine, donc on est mobilisé toute la semaine.
Et entre deux averses, les services de SNCF Réseau travaillent sur l'infrastructure. Pas de train possible avant mercredi.
C'est une ligne très fréquentée, Mathilde.
Oui, on est aux portes de Lyon, hein, le poumon économique de la région. 10 000 habitants à Grigny, très dépendants de leur voiture quand il n'y a plus de train.
Oui, elle est très utilisée. Et donc nous sommes impatients d'avoir une réouverture. Ce matin, les gens ont pris surtout leur voiture, quelques bus aussi, mais c'est très long. On met 20 minutes pour aller à l'appairage de Grigny en train quand il faut 55 minutes en bus. Donc voilà, c'est juste pas entendable d'avoir une absence pendant longtemps de cette ligne de chemin de fer.
Alors au-delà de la voie ferrée, la pluie contraint le quotidien à Grigny. Encore ce matin, celui de Thierry, retraité.
J'ai eu des inondations dans le jardin, dans le vide sanitaire, je suis en train de pomper. J'ai un petit peu d'électricité qui a été coupée, donc je suis en train d'assainir pour que ça se rétablisse. C'est la démerde. Ça va, on s'en est sorti, on s'en sort. Il y a pire.
Hein. Là, il va pleuvoir toute la semaine ici, mais le pire est passé, espère tout le monde.
Merci Mathilde Imberti, en direct du département du Rhône. Côté météo, vous l'avez un peu dit Mathilde, la semaine va rester perturbée et plutôt fraîche. Nous verrons ça dans le détail dans une vingtaine de minutes avec Elodie Calac. Mais Météo France nous donne déjà son scénario pour l'été. Il devrait faire plus chaud que la normale, c'est le plus probable, nous dit Météo France. Et cette probabilité est encore plus marquée pour les régions méditerranéennes. Mais il est encore trop tôt pour savoir si l'été sera caniculaire. Ça intéresse notamment les organisateurs des Jeux Olympiques, dont on va reparler dans les prochaines minutes. Avant cela, un marqueur inlassable du printemps, c'est le muguet, dont la vente par les particuliers sur la voie publique est autorisée chaque 1er mai. Ce sera donc mercredi. 85% de la production française provient de la région nantaise, où l'on peut souffler désormais. Les brins sont expédiés après une récolte éprouvante. Marius Delaunay l'a constaté en rendant visite à un maraîcher de Saint-Philbert-de-Grandlieu, c'est au sud de Nantes.
Des entrepôts vides et de grandes bâches retirées des champs de muguet. Toute la récolte est partie à l'expédition et elle n'a pas été simple cette année.
Le muguet a peu traîné les pieds sur la fin.
Philippe Nolot est maraîcher à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Il cultive du muguet sur un hectare.
On a une première vague de récolte plutôt de bonne heure dans la saison et une deuxième vague là, qui a été un peu plus tardive.
Et aux conditions météo, on rajoute aussi les soucis de main-d'œuvre. C'est qu'il faut trouver près de 70 saisonniers pour s'occuper de la récolte en seulement 10 jours.
Oui, c'est fatigant. Nerveusement, c'est fatigant. Physiquement, c'est fatigant. Ça fait beaucoup d'efforts pour le bonheur, mais bon, justement, le bonheur, ça se mérite.
Résultat, avec toutes ces contraintes, on compte maintenant une dizaine de producteurs de muguet dans le bassin nantais. Ils étaient bien plus nombreux avant.
Il y a 20 ans, on était 50 producteurs. Il y a 50 ans, on était 150, voire plus que ça. Mais c'est le fait aussi des regroupements d'exploitation, des non-reprises de succession qui arrêtaient la culture. Mais par contre, les griffes, le muguet, elles, sont pas perdues. Donc le nombre de brins au total s'est toujours stabilisé.
La production totale ne baisse pas et en plus, elle reste rentable. Philippe Nolot se dit donc prêt à continuer par tradition et par passion aussi, même si aujourd'hui, le muguet ne représente que 10% de son activité à l'année.
Reportage France Bleu, Loire-Océan. Il aura peut-être droit à son brin de muguet, même s'il ne sera en France que dans une semaine. Le président chinois Xi Jinping, l'Élysée confirme ce matin une visite d'État la semaine prochaine, 6 et 7 mai. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Au programme Paris pour cette visite, mais aussi les Hautes-Pyrénées. Pourquoi les Hautes-Pyrénées ?
Parce que c'est une terre à laquelle Emmanuel Macron est attaché, c'est celle de sa grand-mère maternelle, celle qui lui sert aussi parfois à se mettre en scène de manière plus intime. D'ailleurs, les deux présidents iront dans les Pyrénées en couple. C'est bien le signe qu'après leurs entrevues à Paris, après avoir parlé crise internationale et en particulier Ukraine à l'Élysée, eh bien ils veulent insister, c'est un grand classique des relations diplomatiques, sur leur bonne relation personnelle.
Alors, visite avec un caractère personnel, c'est ce que vous nous dites, Simon. On comprend donc qu'Emmanuel Macron veut, dans les prochaines semaines, afficher une proximité avec les grands leaders du monde.
Oui, parce qu'après Xi Jinping, il se rendra, lui, en Allemagne, fin mai, pour une visite d'État de 3 jours, et début juin surtout, il accueillera Joe Biden, le président américain, pour les 80 ans du débarquement. Mais l'Élysée aimerait qu'il reste 2 jours de plus, là encore pour une visite d'État. Si vous y voyez un lien, Jérôme, avec le calendrier électoral, vous n'avez pas totalement tort. L'équipe de campagne, évidemment, jure qu'elle n'a pas l'intention de tirer profit de l'agenda présidentiel. Mais cela colore l'atmosphère, admet volontiers un proche d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État plaide pour une Europe puissance entre les États-Unis et la Chine. Eh bien, il est le seul Européen à recevoir ses deux homologues à un mois d'intervalle. Vous avez compris le message. Et si vous voulez une preuve de plus que tout cela n'est pas anodin, si Joe Biden reste en France après les cérémonies, il y sera jusqu'au 8 juin. Veille de l'élection européenne.
Merci Simon Le Baron pour cette projection dans le calendrier du président des prochaines semaines. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez lui reste en poste, il l'a annoncé dans la matinée. Alors il est au pouvoir depuis 2018, mais mercredi dernier, une enquête préliminaire avait été ouverte contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. Et depuis, le socialiste laissait planer le doute sur son avenir à la tête du gouvernement. Bonjour Mathieu de Taillac.
Bonjour.
Vous êtes à Madrid pour Inter. Mathieu, Pedro Sanchez s'est finalement exprimé ce matin et il s'est montré très offensif.
Oui, offensif sans doute, mais surtout très dramatique, parce que Pedro Sanchez a commencé son discours par ce qui ressemblait à la justification d'une démission. C'était un texte dont auraient rêvé des scénaristes de films politiques à suspense. Il a d'abord rappelé la question qu'il s'était posée et qu'il avait transmise aux Espagnols dans une lettre de 3 pages mercredi dernier. Est-ce que tout cela vaut la peine ? Sanchez a commencé par répondre non, par 3 fois, en utilisant une anaphore. Il a dit en substance que si l'on accepte que l'action politique justifie toutes les attaques, alors cela ne vaut pas la peine. Et finalement, Sanchez a dit qu'après 5 jours de réflexion, après la mobilisation de ses partisans, eh bien, il a décidé de continuer, mais il a appelé à un changement des règles du jeu, à arrêter ce qu'il appelle la machine à boue, autrement dit, les fausses informations, les attaques personnelles contre la famille pour mieux s'en prendre aux responsables publics et à leur politique. Reste à savoir si cette considération se concrétisera en initiative politique ou s'il s'agit, comme l'accuse l'opposition de droite, d'un stratagème à 2 semaines des élections régionales catalanes et à un peu plus d'un mois des élections européennes.
Explication signée Mathieu de Taillac. Merci à vous. Les élections européennes vues d'Espagne, ce sera le thème ce soir d'un 18-20 spécial en direct de Madrid autour de Fabienne Sintès. Là, le Premier ministre a démissionné. Le Premier ministre écossais Humza Yousaf annonce son départ du pouvoir à l'instant. C'est la suite de l'explosion de la coalition gouvernementale en Écosse. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lui, débute une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Il est notamment question de l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et de la reconstruction du territoire palestinien. Première étape aujourd'hui pour lui, l'Arabie Saoudite. Le mouvement islamiste Hamas, lui, doit donner sa réponse aujourd'hui à une proposition de trêve dans la guerre avec Israël. Ce contexte international extrêmement lourd, on le voit, pèse en ce moment sur la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Il pèse comme rarement d'ailleurs avant les Jeux. Et c'est le thème aujourd'hui de notre rendez-vous. Vous du lundi, les Jeux avant les Jeux. Bonjour Nathalie Yanetta.
Bonjour Jérôme.
Directrice des sports de Radio France, le CIO et le COJO passent leur temps à dire qu'il ne faut pas faire de politique, mais avec 2 conflits si proches, est-ce que c'est vraiment possible ?
Alors une bonne fois pour toutes, d'abord, les Jeux Olympiques ont de tout temps été politiques et l'édition 2024, vous l'avez dit, le sera. C'est pour ça qu'il faut bien poser les choses. Que dit en réalité le CIO ? Il dit qu'il faut préserver l'universalisme du sport et encourager la participation massive d'athlètes du monde entier pour porter ce message. Et ça, c'est de la politique. Par exemple, Thomas Barr, ce week-end, a déclaré qu'il allait inviter des athlètes palestiniens parce qu'il est nécessaire de défendre les sportifs d'où qu'ils viennent. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. On pourrait citer 10 exemples. On va revenir au dernier en date. C'était à Tokyo, les wildcards de la délégation afghane et notamment les sportifs qui ont pu y participer.
Mais comment faire pour préserver les sportifs sans glorifier les pays qui sont mis au banc ?
Alors ça, c'est toute la subtilité. Vous avez raison. On va prendre l'exemple russe, si vous voulez bien. Pas d'exclusion des athlètes russes, on est d'accord. Du coup, colère des Ukrainiens. Alors qu'a fait Thomas Barr ? Non seulement il a dit non à l'hymne et au drapeau russe, ça sera donc bannière neutre, mais il va plus loin. Les athlètes qualifiés vont passer une sélection devant le comité olympique pour être sûr qu'ils n'ont jamais soutenu de près ou de loin l'invasion en Ukraine. Et Barr va encore plus loin, il les interdit de défiler lors de la cérémonie d'ouverture. C'est plus qu'une ligne de crête, on peut le dire, sur laquelle marche le CIO depuis 2 ans dans cette affaire.
Ça n'empêche pas les appels politique en France. Anne Hidalgo qui ne veut pas du tout de Russes à Paris. Ou pour parler du conflit entre Israël et le Hamas, la France insoumise qui demande la suspension des athlètes israéliens comme les Russes et les Biélorusses d'ailleurs.
Voilà, alors on va faire un truc, c'est qu'on va pas confondre le sport qui est politique et le sport qui est instrumentalisé par les politiques. Le CIO, il a des règles pour se préserver notamment du fracas médiatique. La différence de traitement, par exemple, effectivement, entre la Russie et Israël. Eh bien, la règle, c'est le respect de la charte olympique qui dit quoi ? Il faut préserver la souveraineté du mouvement sportif. Or, en annexant les territoires ukrainiens, Poutine a aussi annexé les organisations sportives des quatre régions en Ukraine. Il a donc violé la charte olympique. Alors qu'à l'inverse, au Proche-Orient, ni Israël, ni la Palestine n'ont touché aux instances sportives d'en face. La cohabitation des athlètes est donc possible. Et elle est même souhaitable.
Ça, c'est le CIO et le comité d'organisation français.
Il n'a rien à dire.
Nathalie.
Rien à dire sur ces questions. Les organisateurs se plient toujours aux décisions du CIO et ils subissent le ballet diplomatique parallèle. La semaine prochaine, par exemple, je vous mets un billet, on va reparler des Jeux sous l'angle géopolitique. Pourquoi ? Parce que Simon Le Baron l'a dit tout à l'heure, Xi Jinping est invité à Paris et le président Emmanuel Macron a besoin de l'appui des Chinois pour contraindre Poutine à respecter cette trêve que lui président français rêve d'imposer cet été.
Tant d'enjeux autour de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Voilà pourquoi vous êtes tous les lundis dans ce 13-14. Merci Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France. Voilà un pays qui entretient les pires relations diplomatiques avec la France, mais dont nombre de sportifs se préparent pourtant en ce moment dans l'Hexagone. C'est le Burkina Faso, pays dirigé par une junte militaire depuis septembre 2022. Des militaires qui ne cessent de réduire la liberté d'expression et d'information. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Après la BBC britannique et Voice of America, le Burkina Faso a suspendu la télévision francophone TV5 Monde, accusée elle aussi d'avoir diffusé un rapport qui met en cause l'armée du Burkina.
Alors ce rapport, il est signé de Human Rights Watch et dans son rapport, eh bien l'ONG désigne directement l'armée burkinabé, l'accuse d'avoir tué 223 villageois dont au moins 56 enfants dans deux villages, dans le nord du pays, dans le district de Tchou. Et toutes ces précisions sont assez importantes parce qu'on se trouve dans un endroit perdu près de la frontière avec le Mali, un endroit où les populations sont malmenées entre d'un côté les djihadistes qui les menacent et de l'autre les militaires qui s'estiment trahis par ces mêmes populations et qui les accusent de coopérer avec l'ennemi. C'est ce jeu de ping-pong impossible qui entraîne des tueries que l'on peut mettre soit sur le compte des militaires, soit sur le compte des terroristes. Dans le cas présent, eh bien tous les témoignages recueillis par Human Rights Watch semblent montrer du doigt les autorités burkinabées, l'ONG qui demande donc l'ouverture d'une enquête approfondie sur ces massacres avec l'aide de l'Union africaine, mais aussi des Nations unies.
C'est donc un nouveau tour de vis de la part de ces autorités qui, depuis plus d'un an et demi, accentuent la répression.
Oui, depuis que la junte militaire a pris le pouvoir en 2022, elle se replie sur elle-même. Cela aboutit au départ de la France et de ses soldats. Cela aboutit à la censure de chaînes d'information, on vient de le dire. Et puis, je vous rappelle aussi qu'il n'y a plus de liaison aérienne entre Paris et Ouagadougou. Il s'avère que la junte au pouvoir enferme le pays dans cette dictature. Vous savez, aujourd'hui, il n'est plus possible d'appeler certaines personnes au Burkina Faso pour réaliser des interviews. Les gens ne veulent plus parler par peur des militaires, par peur d'être arrêtés, emprisonnés, voire tués. Le pays s'enfonce visiblement et le bilan est redoutable. On parle de 20 000 morts, 2 millions de déplacés. Pour vous faire comprendre, il n'y a pas une seule personne au Burkina qui ne soit pas touchée de près par cette violence. Pas une seule.
Merci Nathanaël Charbonnier.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Il est déjà mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle suite à une plainte de la comédienne Charlotte Arnoux. Mais ce sont d'autres accusations qui valent aujourd'hui à Gérard Depardieu d'être convoqué par les policiers. Il est entendu depuis ce matin à Paris dans le cadre de l'enquête sur les plaintes de deux femmes. Ariane Grissel, je reviens vers vous. Les faits sur lesquels il doit s'expliquer datent, selon les plaignantes, de 2014 et 2021.
Oui, des faits sur lesquels Gérard Depardieu est entendu en garde à vue. Il a été convoqué ce matin vers 8h. Alors pour ce qui est des faits de 2014, les enquêteurs de la police judiciaire veulent l'interroger sur les accusations d'une assistante de tournage sur le film Le Magicien et les Siamois de Jean-Pierre Mocky dans le Maine-et-Loire. Elle avait 24 ans et a décrit dans le Courrier de l'Ouest, je cite, les paluches de Gérard Depardieu partout sur son corps, ces mots indécent. Des faits similaires à ceux relatés par une décoratrice qui accuse, elle, l'acteur d'agression sexuelle commise donc en 2021 sur le tournage des Volets Verts. Selon son récit à nos confrères de Mediapart, Gérard Depardieu lui parle d'abord de ses performances sexuelles avant, une heure plus tard, de la coincer contre un mur. Il me pétrit la taille, le ventre en remontant jusqu'à mes seins. Elle saisit la justice en février et explique que c'est la lettre ouverte de Gérard Depardieu qui l'a décidé. En octobre, dans Le Figaro, l'acteur disait n'être ni un violeur ni un prédateur. Le collectif MeToo Media a recensé, lui, 25 témoignages de femmes à son encontre. 5 d'entre elles ont porté plainte.
Ariane Grissel, pour ses précisions, lui est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie personnel. Le PDG Arnaud Lagardère est entendu depuis ce matin par une juge d'instruction à Paris. C'est le fonds britannique Amber Capital qui avait déposé plainte il y a 3 ans. Arnaud Lagardère qui a cédé le contrôle de son groupe en fin d'année dernière à la famille Bolloré. À Châteauroux, la justice tente de comprendre le mobile de la bagarre qui a entraîné la mort du jeune Mathis. 15 ans, c'était samedi soir, un adolescent, 15 ans lui aussi, et sa mère sont toujours en garde à vue. Le jeune homme est suspect d'avoir porté les coups de couteau. Aucun caractère religieux dans cette agression, explique une source proche de l'enquête à nos confrères de l'agence France Presse. À Lille, c'est le futur palais de justice qui interroge. Il est en pleine construction, il doit ouvrir en 2027. Mais on sait déjà qu'il sera trop petit. L'Ordre des avocats et les syndicats des services judiciaires le disent depuis un moment, mais c'est maintenant confirmé. Stéphane Barbereau, le ministère de la Justice, reconnaît rechercher d'autres locaux en lien avec la mairie de Lille.
L'objectif, c'était bien que tout le monde se retrouve sous un même toit lorsque le nouveau palais de justice sera achevé. Impossible, trop petit, et une justice qui sera donc répartie sur 2 sites pour le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille, Florent Méraud.
Rien n'est officiel, ce sont des on-dits. Il n'y aura que le pôle pénal du tribunal qui déménagera. Ça veut dire que le pôle civil, les affaires familiales, c'est quand même la moitié de la justice, hein, devrait peut-être rester en 2026 au tribunal judiciaire de Lille, avenue du peuple belge. Le pénal n'est que l'autre moitié. Et on a appris que la chancellerie cherchait un nouveau lieu. Donc d'ores et déjà, il est acté qu'il y aura 2 lieux de justice en 2026 ou 2027, ce qui ne facilitera pas la vie des justiciables et des avocats et des magistrats.
Le ministère a donc sollicité la mairie qui a fait des propositions dans le même quartier, explique Audrey Linkenheld, la présidente du groupe majoritaire au conseil municipal.
Peut-être le bâtiment de l'IAE, donc qui est en partie un bâtiment dédié à l'enseignement supérieur, mais dont une aile est inoccupée depuis quelque temps déjà parce que nécessitant des travaux importants, que ce bâtiment-là pourrait potentiellement correspondre.
Les discussions sont en cours avec le ministère pour une transaction qui se ferait au prix du marché, insiste l'élu.
Précision France Bleu Nord. Il n'y avait plus d'opération à l'hôpital de Metz-Thionville depuis 1 semaine. Elles reprennent progressivement aujourd'hui. Il y a eu un problème dans le processus de stérilisation, mais l'activité de stérilisation a pu reprendre ce week-end. Sur l'autoroute A10, dans le Loir-et-Cher, près de Blois, un enfant de 4 ans a fait une chute hier soir par la fenêtre d'un camping-car. Le véhicule roulait alors à 100 km/h, l'enfant a été grièvement blessé. Il est hospitalisé à Tours. On a beaucoup parlé la semaine dernière de la grève des contrôleurs aériens qui a quasiment paralysé le trafic. C'était jeudi dernier. Tout cela malgré un accord de dernière minute. Mais on ne connaissait pas le contenu de cet accord, les concessions obtenues par chacune des parties. Syndicat des aiguilleurs du ciel d'un côté, Direction générale de l'aviation civile de l'autre. Philippe Lefebvre, vous avez pu en obtenir de nombreux détails. Cet accord, Philippe, apparaît très avantageux pour ces contrôleurs.
Oui, car les contrôleurs aériens ont en effet obtenu tout d'abord une augmentation des salaires de 226 à 1000 euros selon les catégories et l'ancienneté, et une prime supplémentaire de 1500 euros par mois, et ce pendant 4 ans. Pour mémoire, aujourd'hui, le salaire mensuel moyen des contrôleurs aériens est de 5000 euros brut. Les aiguilleurs du ciel ont également obtenu 18 jours de récupération supplémentaire en échange de l'abandon du système d'éclairance, un système assez opaque qui permettait aux aiguilleurs, lors des jours de faible trafic, de s'absenter sans avoir à déposer le moindre jour de congé. Mais si la DGAC s'est montrée à ce point généreuse, c'est qu'elle espère qu'après avoir signé ce gros chèque, eh bien les syndicats seront plus conciliants lorsqu'il s'agira de faire passer son projet de réforme du contrôle aérien qui prévoit notamment de faire travailler les contrôleurs plus longtemps et de fermer 14 tours de contrôle. Enfin, cet accord aura aussi probablement des conséquences pour les passagers, une augmentation des prix des billets, car rappelons-le, le contrôle aérien est financé à 100% par les compagnies aériennes.
Philippe Lefebvre, toujours dans le ciel, vous allez voir fleurir dans les prochains mois de drôles de ballons destinés à la surveillance de nos installations électriques et de nos pipelines. Tout cela pour éviter notamment les fuites de gaz polluants. Tout cela grâce à un dirigeable à hydrogène. C'est le projet de Highlight, une entreprise de l'Essonne qui effectue en ce moment des tests avec Enedis. Objectif Gabriel Grécourt, une surveillance aérienne sans émission de CO2.
Sur le tarmac, le dirigeable long de 12 mètres prend son envol. Aux commandes en bord de piste, Robinson Vaitilingon.
Sur ma manette, j'ai deux joysticks qui me permettent de gérer son altitude, sa vitesse et son orientation. J'active le mode de vol.
Flight mode.
Et le dirigeable se rend automatiquement à son point.
L'appareil fonctionne grâce à une batterie agrémentée d'une pile à hydrogène. Martin Bocken, le président de l'entreprise.
Il est gonflé à l'hélium, il a un moteur à l'avant et à l'arrière et des ailerons qui lui permettent de voler de manière très efficace en consommant un peu d'énergie. Et donc ça permet de voler très longtemps. À terme, ce sera 10 heures de vol, donc 350 km en un seul vol.
Ce dirigeable à hydrogène survolera les infrastructures électriques mais aussi le réseau de gaz pour repérer les fuites de méthane très polluantes. Thomas Laporte est cofondateur du projet.
Le dirigeable est déjà équipé d'un détecteur pour détecter ces fuites. On a fait des tests la semaine dernière et la semaine d'avant. Ça a fonctionné, on les a détectés. Maintenant, l'objectif c'est de pouvoir faire des opérations en conditions réelles au-dessus de pipeline pour voir si on en détecte.
Actuellement, les pipelines sont inspectés par hélicoptère. Le dirigeable se veut écologique à condition d'être alimenté avec de l'hydrogène vert produit grâce aux énergies renouvelables.
Gabriel Grécourt, ses préoccupations liées à l'environnement, on les retrouve bien sûr dans notre vocabulaire. Et le Petit Larousse illustré dévoile aujourd'hui les 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions de son dictionnaire de l'an prochain. Alexis Demeyer, on vous retrouve, vous nous détaillez ces nouveaux mots. Il y a notamment ceux de l'écologie qui sont en force dans cette dernière livraison.
Oui Jérôme, des mots qu'on entend souvent dans ce journal et plus globalement sur notre antenne. Méga-bassine, PFAS, zéro déchet, polluant éternel, éco-geste, fast fashion, mais aussi kombucha, cette boisson au thé fermenté vendue principalement dans les épiceries bio.
L'influence des mouvements sociaux, de la mobilisation des minorités aussi se fait sentir.
Afrodescendant, masculinisme, visibilisé ou encore empouvoirment, la version francisée de l'empowerment popularisée par les mouvements féministes pour valoriser estime de soi et engagement collectif.
Et puis en cette année 2024, on parle pas mal de sport, même si c'est le Larousse de l'année prochaine.
Le Larousse intronise les badistes qui pratiquent le badminton, mais aussi les trottinettistes. Votre sport de prédilection, Jérôme, l'ultra-trail fait
plutôt
aussi
le badminton, mais bon, on peut. Hein.
Tout comme le mot skatepark, même si Larousse nous recommande de privilégier désormais Planchodrome, pas sûr que
Planchodrome.
Ouais, voilà, on va s'y mettre. Côté nom propre, plusieurs sportifs également, le basketteur LeBron James et deux Antoine, Dupont et Griezmann, mais aussi les artistes Beyoncé, Mylène Farmer, Virginie Efira, Riyad Satouf et Omar Sy.
Voilà, pour tous ceux qui ne connaissaient pas ces personnalités comme Mylène Farmer ou Omar Sy, vous retrouverez leur bio dans le détail dans cette dernière livraison du Larousse. Merci à vous, Alexis Demeyer, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac, qu'on ne présente pas. Puis à 13h30, nos invités pour parler du coût des violences sexuelles ou conjugales, coût financier et économique. Nous en parlons avec la journaliste Virginie Crécy qui leur consacre une enquête. Et avec Laurence Renaud de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de la Loire, sa banque aide spécifiquement les victimes de violences conjugales à ouvrir un compte en banque. C'est une première en France. Si vous aussi aimeriez bénéficier de ce dispositif ou si vous avez connu le coût de ces violences, j'attends vos appels. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton dans les coulisses d'un voyage officiel présidentiel. Aujourd'hui, nous allons embarquer dans l'un des avions mobilisés. 13h50, Thomas Negaroff et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Thomas, dans C'est la France, l'histoire d'un verre.
Oui, le verre Duralex. Je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire, mais ça mériterait d'y être.
Duralex.
Et peut-être. Hein, et direction la chapelle Saint-Mémin, là où tout est né. Et aujourd'hui, tout pourrait malheureusement mourir.
C'est dans le Loiret. Et avec vous, Frédéric, un humoriste.
David Castello-Lopez, que vous entendez chaque semaine dans la matinale de France Inter et qui nous fera écouter une chanson que l'on entend assez rarement dans la matinale de France Inter. Rosalie de Carlos.
Ah, il faudrait peut-être l'entendre plus souvent. Merci Frédéric et Thomas, à tout à l'heure.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Élodie Callac.
Bonjour à tous.
C'est encore pluvieux aujourd'hui des Pyrénées à la Bourgogne.
Exactement, des Pyrénées et de l'Occitanie vers le Massif central, le Lyonnais, les Ardennes et la Lorraine. On retrouve notre perturbation avec des pluies plutôt faibles sur le nord-est, mais des pluies copieuses sur le Roussillon. Enfin, il pleuvra encore pour la journée de demain. Il neige sur les Pyrénées autour de 2000 mètres. Plus à l'ouest, un ciel variable entre nuages et éclaircies, plus belle de la Vendée jusqu'au Pas-de-Calais. Sur la Bretagne et le Cotentin, là, le ciel s'assombrit annonçant de la pluie pour la nuit prochaine. Le vent de sud se renforce. Et puis sur le flanc est et la Corse, là les nuages élevés dominent avec des poussières de sable et également...
Retour qui masquent, des poussières de sable.
Oui, qui masquent souvent le soleil. Il fait frais sous la pluie, un peu plus de 12 à 17 degrés des Pyrénées et du Roussillon vers la Bourgogne, 15 à 20 plus à l'ouest, jusqu'à 18 sur le flanc est et 26 en Corse. Et puis demain, des pluies sur la Bretagne, de l'Occitanie au nord de la Seine aussi, et puis un risque orageux sur la moitié est pour l'après-midi.
Merci Élodie Callac, Météo France.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
C'est le coût, C-O-U-T, des coûts, C-O-U-P-S, l'argent que les victimes de violences sexistes, sexuelles ou conjugales, le plus souvent des femmes, doivent verser parfois des années après avoir été agressé. C'est le coût d'un déménagement parce qu'on ne peut plus habiter le quartier ou la ville où l'on a subi ces violences, le coût des frais d'avocat, le prix des traitements médicaux, la perte d'un emploi aussi parfois. Cela peut paraître secondaire par rapport aux violences subies, mais la question est pourtant centrale. Bonjour Virginie Crécy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous consacrez à ce sujet un livre aux éditions Grasset. Il a paru la semaine dernière. Il est intitulé Le prix des larmes, le coût caché des violences sexuelles. Avec nous également Laurence Renaud. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes directrice de la communication de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire qui vient de créer un dispositif inédit en France, un système d'ouverture de compte bancaire pour les victimes de violences conjugales. Vous allez nous en parler et répondre également aux questions des auditeurs de France Inter qui peuvent vous interpeller directement 01 45 24 7000. Ça se passe aussi via l'application France Inter. Avant de débuter, je livre deux chiffres. 84 000 victimes de violences sexuelles recensées dans notre pays en 2023. Hors du cadre familial, c'est 114 000. Au total, ce sont des chiffres qui ne cessent d'augmenter et qui sont basés, je le précise, sur des dépôts de plaintes. Virginie Crécy, je commence avec vous. Votre livre est basé sur des entretiens avec des victimes de violences sexuelles. Combien en avez-vous rencontré ?
Une vingtaine.
Une vingtaine. Oui. Et vous avez constaté chez chacune d'entre elles un besoin de parler de ce sujet quand vous posiez la question ?
Oui, un réel besoin, un réel impensé chez les personnes qui ne savent pas ce que c'est que de vivre des violences. Cette question économique, vous l'avez dit, elle est finalement centrale, elle n'est pas secondaire. Pour pouvoir sortir de violence, il faut de l'argent. Pour pouvoir se réparer après avoir vécu des violences, il faut de l'argent.
Et avec les personnes que vous avez rencontrées, avec les victimes de violences, elle n'est pas taboue cette question. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on vous donne les chiffres, on vous dit « bah oui, ça m'a coûté énormément d'argent ». Au-delà de ce que j'ai subi moi dans ma chair, économiquement, ça a aussi eu un coût.
Alors, elle n'est pas taboue. Par contre, arriver à faire le calcul, c'est très douloureux, c'est très difficile. À chaque fois, pendant tous ces entretiens, on faisait dépenses, le calcul de ces dépenses par poste de coût. Donc la justice, ouais. La santé, au niveau professionnel... Et il y a toujours un moment où une victime me disait « Stop, là, j'arrive plus à faire ce calcul parce que les chiffres matérialisent ces violences et ces coûts sont tellement faramineux qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à faire ce calcul. Il devient trop douloureux. »
C'est-à-dire qu'elles prennent conscience de choses qu'elles n'avaient peut-être pas envisagées jusque-là en disant « Mais ça m'a coûté autant d'argent. » Enfin,
oui, elles en prennent conscience au moment où moi, je leur demandais de faire ce calcul et il a fallu par moment qu'on arrête de faire ces calculs et que je leur dise « Écoutez, envoyez-moi un message quand vous serez prêts. » Parce que c'est extrêmement brutal de regarder ces chiffres en face.
Qu'est-ce qui coûte le plus cher ?
Ça dépend.
Les frais de santé ?
Les frais de santé quand il y a une prise en charge. Mais les frais de santé, quand on décide vraiment de se faire soigner, c'est exorbitant, les frais de santé. Après, ça dépend, par exemple, vous parlez des violences conjugales. Une victime de violences conjugales, sa priorité, c'est pas de se faire soigner. Sa priorité, c'est de sortir des violences. On peut pas se faire soigner quand on vit encore des violences. Il faut d'abord se protéger. Donc, ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, mais à chaque fois, ça coûte Ça ne coûte jamais, ça ne coûte rien, jamais.
Les frais de justice, les frais d'avocat, pour qu'on ait une idée combien ça peut.
Alors selon un rapport de la Fondation des femmes, les frais de justice, on est à peu près sur 10 000 euros pour une plainte pour violence sexuelle. Les violences conjugales, ce calcul n'a pas été fait, mais tout de suite on monte sur des montants plus exorbitants. Et ce que j'ai constaté lors de mon enquête, ce sont aussi des avocats qui ne facturent pas au forfait. Et donc des victimes qui se retrouvent avec parfois plus de 20 000 euros de frais de justice.
20 000 euros.
20 000 euros, notamment une aide-soignante qui a témoigné dans le livre, plus de 20 000 euros de frais de justice. Elle se retrouve complètement asphyxiée, elle est endettée auprès de ses proches. Et c'est une violence économique qui s'ajoute à la violence conjugale ou à la violence sexuelle.
Laurence Renaud, ce n'est pas au cœur du dispositif que vous avez mis en place, mais enfin, certaines des clientes de votre banque, elles sont victimes de ces violences sexuelles ou conjugales. Est-ce qu'elles arrivent à vous en parler? Est-ce que vous arrivez à détecter, tiens, telle cliente est à découvert, elle a des problèmes financiers, c'est peut-être lié à des problèmes personnels. Est-ce que certaines clientes s'en ouvrent à leur banque ou à leur conseiller? Est-ce que ça arrive?
Alors, on est comme partout concerné par les violences. Hein. C'est un sujet de société qui nous préoccupe. Je dirais que dans la relation bancaire, non. Hein. C'est pas quand même quelque chose qu'on va évoquer avec son banquier très naturellement. Et c'est pourquoi nous, on s'est dit qu'il fallait un dispositif avec des personnes qui soient là pour les écouter. Moi, je pense qu'effectivement, une agence, voilà, pour recevoir ce type de message, on peut le percevoir effectivement quand il y a une relation de confiance qui est très forte. Ça peut arriver, mais c'est pas très courant. Voilà,
c'est pourquoi parce que c'est difficile, évidemment, c'est de l'ordre de l'intime. Mais en même temps, ça a des conséquences financières énormes.
Absolument. Les violences économiques, nous, c'est un sujet donc, qui nous intéresse parce qu'on perçoit effectivement que la personne est privée, soit partiellement, soit totalement, de son autonomie financière. Donc forcément, nous, en tant que banque, acteur économique, on s'est senti concernés, d'où la création de notre dispositif pour venir en aide à ces victimes.
Quel a été le déclic de votre point de vue? Vous êtes une banque, à quel moment vous êtes dit bah, « nous aussi, on a un rôle à jouer » dans la lutte contre les violences conjugales et contre ses effets?
Alors, il y a, comme je l'ai dit, le constat de tout le monde que les violences augmentent dans notre société. Il y a eu une étude également de l'IFOP pour les Glorieuses en 2023 qui révèle que 4 femmes sur 10 sont victimes de violences économiques. C'est un chiffre qui est impressionnant et c'est souvent la porte d'entrée à d'autres formes de violences. Et donc ça nous a interpellés et on s'est dit qu'on avait un rôle à jouer puisque il y avait un sujet économique. Et puis parallèlement, nous avons rencontré une sénatrice, Valérie Létard, qui à ce moment-là préparer sa loi pour créer l'aide universelle d'urgence pour les violences de victimes. Et lors de notre échange avec cette sénatrice, nous nous sommes aperçus là qu'il y avait un manque, c'est-à-dire que oui, l'aide pouvait être versée, donc par les caisses d'allocations familiales depuis le vote de cette loi, mais sauf que si l'aide, elle tombe sur le conjoint ou sur un compte qui n'est pas protégé pour la victime, on n'avance pas.
L'argent, il va pas aux victimes.
Voilà, la victime, elle ne peut pas partir, elle ne peut pas quitter le foyer.
Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement à vos clientes?
Très concrètement, alors nous proposons un compte bancaire gratuit pendant 2 ans, avec une carte bancaire pendant 2 ans gratuite, également une autorisation de découvert de 300 euros. Mais je pense que le plus important dans notre dispositif, c'est le fait que nous ayons 11 collaborateurs dédiés, formés, pour écouter les victimes.
Ils font que ça.
Ils font que ça, pour les protéger, pour les rassurer, parce que bon nombre des victimes n'ont plus le contrôle, ne sont pas rassurées sur le fait qu'elles sont capables de gérer un compte. Et donc, il y a aussi ce dialogue pour les rassurer.
Beaucoup d'appels, c'est un dispositif qui est très récent.
Oui, qui est extrêmement récent, puisque la loi février, la loi Létard, décret d'application novembre 2023, il a mis en place fin 2023, début 2024. Donc, on a eu 100 d'appels pour le moment, pour avoir des renseignements. Et on a ouvert à ce jour 15 de comptes. Donc, c'est un démarrage qui, pour nous, montre l'utilité de la mesure qui nous dit qu'il y a vraiment un besoin. Et donc, nous, on encourage effectivement à développer.
Plusieurs appels, questions, témoignages au standard de France Inter. Nous allons accueillir Geneviève qui nous appelle du département de l'Aude. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez
bien.
On
vous entend très bien, Geneviève.
Et ben voilà, moi je voulais témoigner par rapport à des violences sexuelles donc commises quand j'étais jeune.
donc j'avais 9 ans. Et bien sûr, après un coup moral quand même qui est quand même assez costaud, j'ai eu un coup économique tout au long de ma vie. Puisque vous comprenez bien qu'une fois qu'on est victime si jeune, tout va être compliqué, puisque je n'ai pas pu accéder aux études que j'aspirais, puisqu'il y a eu des problèmes psychologiques. Donc tout ce que je voulais faire a été mis par terre. Et voilà quoi. Et la justice ne vu qu'après on a le problème de la prescription, je n'ai pas été reconnue comme victime, hein, puisqu'on sait qu'il y a une amnésie traumatique, ça on le sait.
Les faits étaient prescrits vous concernant quand vous avez voulu porter l'affaire en justice ?
Exactement. D'accord. Comme j'étais jeune, il faut savoir que souvent les victimes quand elles sont violées jeunes, les amnésies traumatiques sont longues, hein, donc c'est ce qui est normal. Ça nous permet quand même de rester en vie. Et après, quand j'ai voulu porter plainte, c'était déjà tard. Donc, on n'a pas de compensation financière. Mais déjà, on aimerait déjà être reconnu victime, on l'est pas du tout. Pas de compensation financière. Uh-huh. Et pas de médecin forcément non plus à l'écoute à l'époque, puisqu'on nous disait que ça n'existait pas, que c'était du déni, que l'amnésie traumatique n'existait pas. Donc, en fait, moi, en constat, moi, j'ai 50 ans maintenant. Je trouve que j'ai traversé tout ça. Par moi-même, donc un peu complètement lâché et un coût économique, comme vous dites, avec des soins énormes qui sont à la charge de la victime. Voilà.
Merci Geneviève pour votre témoignage que je soumets à Virginie Crécy. Sans doute beaucoup de femmes sont dans la situation relatée par Geneviève à l'instant.
Oui, alors ce qui est intéressant de souligner dans ce qu'a dit Geneviève, c'est comment la question de la réparation est corrélée à la question de la reconnaissance judiciaire des faits. À mon sens, on se trompe en allant dans cette direction. On doit d'abord soigner les victimes. C'est la priorité, c'est l'urgence. Alors, avant même de s'occuper de la question judiciaire. Parce que la question judiciaire, elle s'oriente toujours vers l'agresseur. Mais d'abord,
sans savoir si on connaît l'agresseur, si on l'a identifié.
Alors, évidemment, c'est une question qui est importante.
Ouais.
Elle est importante. Mais il faut aussi, et avant tout, soigner les victimes. Et attendre qu'il y ait un procès, attendre qu'il y ait une réparation financière. Quand bien même il y aurait cette réparation, elle arrive souvent après des années, une dizaine d'années de procédure judiciaire. On ne va pas mettre 10 ans d'errance en attendant d'être soigné. Donc la priorité, c'est d'ouvrir des centres pluridisciplinaires pour orienter les victimes sur tous les plans, hein, notamment des assistantes sociales, par exemple sur la question des comptes bancaires, mais aussi les orienter d'un point de vue médical.
Est-ce que on peut avoir l'impression, en ouvrant ce débat sur les coûts économiques, les conséquences économiques, parce que ça coûte aussi très cher à la société, plusieurs milliards d'euros, il y a des rapports qui ont été rédigés là-dessus, est-ce que c'est pas un constat d'échec de se dire on n'arrive pas à faire reculer ces violences, alors on utilise finalement cet argument économique. Ça coûte cher, au fond, l'argument de dire respecter les hommes et les femmes, respecter ce qu'ils vous disent, respectez-les dans leur chair, ça devrait suffire, avant même d'avoir à brandir un argument économique, Virginie Crécy.
Oui, je le dis un moment dans le livre, c'est un petit peu l'expression d'un désespoir de ma part d'avoir abordé cette question sous cet angle. Je le voyais même à titre personnel dans mon entourage, de parler de ces sujets et de ne pas être entendue. Mais cette question est tellement sensible, réveille tellement de choses au niveau émotionnel. L'aborder sous la question économique, c'est l'aborder de biais et avec un petit peu plus de douceur peut-être, et de pouvoir la penser rationnellement, concrètement. Et ces chiffres sont concrets et nous donnent aussi envie de trouver des solutions concrètes pour ne pas laisser des victimes comme Geneviève abandonnées, livrées à elles-mêmes. C'est le constat, comme il n'y a pas de parcours de soins, les victimes sont livrées à elles-mêmes, sont complètement abandonnées et ce sentiment d'abandon, il vient s'ajouter à la violence qui a déjà été vécue, il vient créer une nouvelle violence.
Alors, parmi les dispositifs possibles, Thibaut veut nous parler de dispositifs qui existent en Suède. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Vous nous appelez du Puy-de-Dôme, je crois.
C'est bien ça.
Nous vous écoutons.
J'ai des amis qui ont déménagé en Suède récemment et lorsqu'ils ont pris un logement, ils ont eu la bonne surprise de se rendre compte que dans l'assurance habitation, c'est mandataire et obligatoire, il y a une clause, une couverture en cas de violence conjugale au sein du foyer, qui prend en charge du coup un hébergement d'urgence en cas de problème, les frais de justice, et qui surtout permet de déclencher quelque chose de déclencher une action tout en restant protégé. C'est-à-dire que l'assurance ne pourra jamais en aucun cas donner la moindre information au conjoint de la personne qui a déclenché l'opération, même si celle-ci est détentrice du contrat. Donc sachant que la caisse d'épargne est aussi prestataire d'assurance, je me demandais si ce ne serait pas non plus une piste à explorer pour eux.
Vous faites le boulot à ma place, Thibault, et je vous en remercie. Je soumets votre question à Laurence Renaud.
Alors, pour le moment, c'est pas une piste qui a été explorée, mais pourquoi pas, hein. Tout ce qui va dans le sens, nous, le sujet des violences en général nous intéresse. C'est un sujet de société, donc on s'y intéresse. Et en tant que banquier assureur, on peut réfléchir à d'autres... Moi, je la connaissais pas, mais on peut réfléchir à d'autres pistes.
De manière plus large, est-ce que vous pourriez, lorsque vous accueillez un couple, une famille dans votre agence, les sensibiliser à la thématique de l'emprise, au fait que chacun doit prendre ses décisions de son côté, que chacun doit donner son consentement, parce que je suppose que parfois, vous constatez qu'il y a un membre du couple qui peut être influencé, voire même sous l'emprise de l'autre. On constate ça de temps en temps.
Oui, de temps en temps. Après, oui, les conseillers peuvent constater ce type de choses. Après, on ne va pas rentrer non plus dans l'intimité. On peut individuellement, quand on voit, de même que quand on voit un jeune, voir par rapport à la gestion des comptes, le conseiller, ça c'est quelque chose effectivement qu'on fait au quotidien.
Même si c'est délicat, mais il y a peut-être toute une mentalité à changer. On voit qu'en Suède, on met le sujet dans le contrat, carrément. Nous, on se disait encore peut-être il y a quelques années, tout ça, c'est de l'ordre de l'intime. On va pas l'écrire et on va pas le lier à un organisme comme une assurance ou comme une banque.
Oui, c'est vrai que les mentalités sont un petit peu différentes en France. Et je pense que c'est pour ça aussi que nous, on a souhaité avoir une équipe de collaborateurs qui soit tout à fait formée à ces sujets-là. Ouais. C'est pas un sujet facile. Aller en agence, quelqu'un qui n'est pas totalement formé à ce type d'écoute, va pas forcément appréhender le sujet. Et nos collaborateurs, les 11 collaborateurs que nous avons, eux sont vraiment formés. Et je pense que c'est beaucoup plus facile pour eux d'entendre la situation d'urgence et de pouvoir y répondre dans un simple appel.
Merci à toutes les deux. Laurence Renaud de la Caisse d'Épargne Bretagne, Pays de la Loire. Merci également à Virginie Crécy. Je renvoie à votre ouvrage Le Prix des Larmes. Le coût caché des violences sexuelles, c'est aux éditions Grasset. Je remercie également les auditeurs et les auditrices qui nous ont appelés nombreux aujourd'hui. 13h46. Notre feuilleton, nous passons cette semaine dans les coulisses d'un voyage présidentiel. On appelle ça un VO pour voyage officiel. Car derrière les poignées de main se cache une impressionnante logistique. Illustration avec le dernier voyage en date, le mois dernier, en Guyane et au Brésil. Maxence Lambrecq est notre guide et on le retrouve à l'aéroport 48 heures avant qu'Emmanuel Macron ne décolle.
Et voilà, c'est parti. On est sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. En face de nous, l'Airbus de la République française avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Donc à l'intérieur, il n'y aura pas le président. Il y aura en revanche beaucoup, beaucoup de policiers. Le GSPR, le groupement de sécurité du président de la République. Et puis la presse, on est une quarantaine de journalistes à embarquer.
Bonjour et bienvenue à bord de cette A330 de l'armée de l'air et de l'espace, mise en œuvre par l'escadron de transport Esterel. Merci de prêter attention à la démonstration qui va suivre.
Je m'appelle Ludovic Marin, je suis journaliste photographe à l'agence France Presse. Moi, j'ai commencé à suivre les voyages du président Chirac en 1995. C'est quand même une logistique hors norme. Là, sur ce voyage, il y aura trois avions. Le nôtre, donc l'avion délégation, le sien, l'avion présidentiel, et puis ce qu'on appelle un avion de rechange, un avion spare en anglais, qui est habituellement un plus petit avion, un Falcon. Le nôtre sert régulièrement à transporter des troupes, donc en fait il est en configuration classe économique pour une bonne partie de l'avion, alors que le vol du président, il est en configuration classe business pour tous ses collaborateurs et de temps en temps quelques journalistes ou invités du président qui participent à un voyage. Il y a en même temps dans cette zone un bureau pour ce qu'on appelle les transmetteurs, qui sont les personnes qui sont chargées de maintenir le président en liaison perpétuelle avec qui que ce soit, où que ce soit dans le monde. Puis après cette partie de l'avion, il y a la salle de réunion, salle à manger du président, qui est une pièce assez confortable avec une grande table et plusieurs sièges autour, une une dizaine, je dirais, grosso modo. Et puis ensuite, plus haut, se trouve la partie privée du président, où on trouve successivement son bureau, sa chambre, ainsi qu'un espace sanitaire.
Conditions malheureusement orageuses sur le trajet, donc je vous demanderai de rester au maximum assis et de suivre les consignes du personnel de cabine. Bon, voilà tout ça.
Chaque avion d'un voyage présidentiel est gardé 24 heures sur 24 pendant la durée du VO. Et il y a donc des policiers qui se relayent à bord jour et nuit pour que l'avion soit toujours en permanence occupé de façon à ce que personne ne puisse y pénétrer quand il est sur un tarmac en pays étranger.
Est-ce que c'est payant pour les journalistes, des voyages comme ça ?
Bien sûr, évidemment, toutes nos rédactions sont facturées pour toutes ces prestations.
Est-ce qu'il y a une époque où c'était gratuit ?
Non, jamais. Ça n'a jamais été gratuit. En tout cas, moi, j'ai jamais connu ça. Le président Chirac faisait globalement un événement le matin, un événement l'après-midi, voire un événement le soir. Alors qu'aujourd'hui, le président Macron, je pense qu'il fait 3 événements le matin, 4 événements l'après-midi, voire un événement le soir. La journée n'a, elle, pas changé. Elle fait toujours que 24 heures. Il est évident que nous n'aurions jamais pu emprunter des vols commerciaux pour suivre le président et son rythme avec des vols commerciaux pour enchaîner 4 villes en 2 jours et demi au Brésil. Il y en a qui vont partir avant lui, d'autres qui vont partir après lui, pour qu'il y ait toujours des journalistes qui soient à son arrivée et que ceux qui ont couvert l'étape d'avant puissent finir de travailler avant de partir pour l'étape d'après. Donc en fait, c'est un espèce de Rubik's Cube d'avion.
Je vous remercie pour votre attention.
Bon, l'avion arrive là, les gars. En fait, silence. Donc on va peut-être le suivre.
Nous détachons donc nos ceintures et nous retrouverons Maxence Lambrec demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50. Le lundi, Thomas Negaroff nous parle d'un lieu qui fait l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à la chapelle Saint-Mémin, 10 000 habitants dans le Loiret, où les salariés de Duralex, Thomas, attendent avec angoisse l'arrivée d'un repreneur.
La chapelle Saint-Mémin, traversée par la Loire, cité extraordinaire par la variété de ses paysages, par sa biodiversité et par la découverte récente lors de la construction d'un lotissement de vestiges et d'objets archéologiques, principalement du Haut Moyen-Âge, signe d'un village sur place. Mais en effet, si l'on parle aujourd'hui de la chapelle Saint-Mémin, c'est pour ce site industriel bien plus récent, fondé en 1927 par un vinaigrier qui devient ensuite propriété du parfumeur François Coty, aujourd'hui un groupe mondial, leader mondial des parfums pour y fabriquer des flacons. Et puis en 1934, Saint-Gobain rachète le site pour y produire le verre trempé dont l'entreprise a déposé le brevet en 1929. Un procédé industriel qui permet d'avoir un verre très solide. On porte le verre à plus de 600 degrés et au moment où il ramollit, on le refroidit. Très brutalement.
Ce verre ultra résistant, donc on l'utilise dans l'industrie, mais aussi dans la vaisselle.
Et oui, et c'est là, à la chapelle Saint-Mémin, que tout va se jouer. En 1945, Saint-Gobain dépose la marque Duralex, inspirée de la devise latine. Duralex, c'est l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Et crée la vaisselle en verre trempé, et l'année suivante, est lancé le verre gigogne. Vous savez, le petit verre rond au fond duquel on lit notre âge à la cantoche. C'est en fait le numéro du moule, hein, de 1 à 48. Viendra ensuite, en 1954, le verre Picardie et ses 9 facettes. Duralex devient l'un des symboles de la société de consommation, mis en avant notamment lors du salon des arts ménagers de Paris. On est en 1963.
Le salon des arts ménagers, 80 000 mètres carrés, 1800 exposants, fête cette année son 40e anniversaire. Montaigne serait aujourd'hui comblé, lui qui disait « La plus utile et honorable science et occupation pour une femme, c'est la science du ménage. » Il avait évidemment oublié le célibataire. Saint-Gobain offre un aperçu des multiples rôles que le verre peut jouer dans un foyer. Et le verre, c'est des verres à boire, bien sûr, qui peuvent être mis entre toutes les mains, même les plus maladroites. Les arts ménagers, le voilà bien le paradis du célibataire.
Le paradis du célibataire. Et cette période faste pour Duralex et le site de la chapelle Saint-Mémin s'achève, Thomas, avec la fin des Trente Glorieuses.
Oui, la concurrence est sévère et à partir de la fin des années 1990, Duralex va passer de mains en main, certaines étant carrément malhonnêtes, toutes promettant évidemment des lendemains qui chantent. À 4 reprises, Duralex frôle le dépôt de bilan, mais à l'image du verre gigogne qui tombe à la cantine, l'entreprise rebondit toujours et ne casse jamais jusqu'à la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine. L'entreprise énergivore s'effondre et se trouve aujourd'hui placée en redressement judiciaire. Il paraît que lorsque le verre gigogne tombe sur la tranche, il casse en 1000 morceaux, mais les 230 salariés ont encore de l'espoir. Le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une période d'observation de 6 mois pour essayer de débusquer
un repreneur.
Et on suit évidemment avec beaucoup d'attention ce dossier d'Uralex sur Inter. De C'est la France à C'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est une voix que nos auditeurs connaissent bien. C'est l'humoriste David Castello-Lopez.
Vous pouvez l'entendre chaque semaine, le mardi, dans la matinale de France Inter. Et il est en tournée avec son spectacle Authentique. Il sera prochainement à Bordeaux et à Lille, à l'Olympia, mais c'est complet. Puis au Zénith de Paris le 13 juin 2025. Et avec lui, nous avons parlé d'un tube de Carlos, mais oui, Rosalie, une chanson que David Castello-Lopez associe instantanément aux vacances de son enfance, au départ en vacances.
J'allais au Portugal en voiture avec mes parents et systématiquement, dans la voiture, on écoutait Carlos. Et cette chanson en particulier. Et moi, du coup, c'est resté complètement lié déjà à l'enfance, mais en plus à la joie de partir en vacances quand on a 9 ou 10 ans. Et donc aujourd'hui encore, quand j'entends Rosalie, j'ai vraiment cette espèce de nostalgie joyeuse de « Ah, c'est bon, c'est maintenant, on va partir en vacances
ouais. ». Donc c'est l'été ?
Oui, c'est l'été, bien sûr. Il faut voir, on a une Golf, une Volkswagen Golf avec mes parents. Et il fait extrêmement chaud, il n'y a pas d'air conditionné dans la voiture. Mais il y a Rosalie sur l'autoradio. Et plus généralement, j'ai envie de dire, c'était que ça qu'on écoutait dans la voiture. C'est-à-dire Carlos, mais aussi la compagnie créole. Alané Canelle, Jocelyne Béroard, Cassav. Il y avait une ambiance de zouk pour aller au Portugal dans la voiture quand j'étais petit, quoi.
Le Portugal, parce que vous aviez de la famille là-bas ?
Parce que je suis demi-portugais, oui.
Rosalie, Rosalie, pauvre de moi. Tous les jours, je pense à toi. Ça vient d'où, ma doudou, ton grand dédain ? Je suis seul au dodo, j'ai du chagrin. Rosalie, Rosalie, tout est dû. Tu me tues, je suis fou, je suis foutu. J'adorais ma doudou, je me souviens.
On est en plein karaoké ici. C'est en 1978, Frédéric, qui est sorti cette chanson, une adaptation d'un succès du Guadeloupéen Georges Plonkitt.
Une adaptation du parolier Claude Lemel. Mais alors pourquoi David Castello-Lopez l'a tant écouté cette chanson ? Pourquoi était-ce cette musique-là dans la voiture ? Réponse, c'est son père qui avait la main sur l'autoradio.
Mon père, c'était une des personnes les plus cultivées, les plus raffinées que j'ai connues de ma vie. Il jouait Bach au piano, mais des trucs ultra compliqués. C'était un mélomane assez profond pour lequel la musique était très importante, etc. Mais dans la voiture, pour aller au Portugal, c'était Rosalie. Et de voir ce monsieur d'1m90, très comme ça, raffiné, dire dans la voiture et hurler « Mais qu'est-ce que t'as, doudou, dis-donc ?» Et de voir sur son visage quand il faisait ça, mais vraiment une exaltation, quoi, une joie immense. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'il mettait un peu sa mélomanie profonde en pause à ce moment-là, et c'était juste la fête. Et c'est vrai que en fait, Rosalie, c'est pas si mal. Alors bien sûr, c'est simple dans la mélodie, etc. C'est un peu con-con. Mais franchement, ça danse, ça met de bonne humeur. Je pense que je me méfierais des gens que la chanson Rosalie n'enjaille pas un petit peu. Il y a un truc, je me méfierais d'eux. C'est qu'ils ont un mauvais cœur.
Qu'est-ce que t'as, doudou, dis donc ? Doudou, amadoue-toi donc. T'aider au dodo, c'est bidon.
Et finalement, cette chanson, elle est associée aux vacances, oui, à l'été. Elle est associée aussi à un autre visage de votre père.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'était pas un type qui était que austère. Il avait cette austérité de la grande culture, mais il pouvait avoir aussi complètement la légèreté d'être sincèrement transporté par Rosalie Rosalia en tapotant sur le volant comme ça de la Golf sur le chemin du Portugal.
Il y avait qui d'autre dans la voiture ?
Il y avait ma maman et ma sœur. Ma maman et ma sœur, et on était Rosalie, 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 Rosalie. On adorait ça.
Est-ce que cette chanson-là, elle est associée uniquement aux vacances ou vous l'écoutiez aussi dans l'année ?
elle est surtout associée aux vacances et donc à l'enfance. Et aujourd'hui, quand je l'écoute, elle peut me mettre les larmes aux yeux. Alors que c'est vraiment une des chansons les moins tristes de l'histoire de l'humanité, je pense. Mais quand on a plus de 40 ans, tout ce qui fait rejaillir des moments purs de l'enfance, c'est de la joie totale, comme ça arrive assez peu dans le reste de la vie. Bah, quand il y a des choses qui font remonter ces joies-là à la surface, bah, on peut être nostalgique, d'autant plus que bah, mon père est mort, ma mère est morte. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que ça peut mettre les larmes aux yeux, même si c'est une chanson très joyeuse.
Ils sont là quand vous entendez cette chanson ?
Ouais, bien sûr. Ils sont là à l'intérieur de moi. Je ne suis pas croyant, donc je ne pense pas qu'ils soient là pour de vrai. Mais en tout cas, ça les convoque de nouveau et de façon très forte, quoi.
Carlos, Rosalie, c'était donc Frédéric, le choix de David Castello-Lopez.
Actuellement en tournée avec son spectacle Authentique. Et chaque mardi dans la matinale de France Inter.
C'est donc demain matin, si j'ai bien tout compris.
Et oui.
Et je vous dis à demain, Frédéric.